Madame Catherine Nabo, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment se présente d'abord votre formation sanitaire?
Notre formation sanitaire, c'est un centre de santé qui fait beaucoup d'activités, les activités minimum, les paquets minimum d'activités.
Alors, quelles sont les maladies récurrentes que vous prenez ici en charge au niveau de votre formation sanitaire?
Ici, le numéro 1 des maladies qu'on a l'habitude de prendre en charge ici, c'est le paludisme. Après le paludisme, nous avons les infections respiratoires aiguës. Après ça, nous avons les diarrhées qui sont liées surtout aux parasitoses. Et il y a les cas de malnutrition aussi, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. Et on fait aussi la prise en charge de tuberculose, VIH et la prévention de la transmission parent-enfant du VIH.
Parlant du VIH, est-ce que vous faites ici le dépistage automatique?
Si, on fait le dépistage automatique chez les femmes enceintes. Et pour certains patients qui viennent en consultation et qu'on suspecte qu'il y a un cas de VIH.
Alors, comment vous faites le suivi de ces personnes qui sont, par exemple, affectées par le VIH-Sida?
Ceux qui sont affectés, dès qu'on finit avec le bilan, qui est le bilan est positif, on les prend automatiquement en charge. Parce que nous sommes un centre de prise en charge, on a les médicaments qu'il faut et on les suit chaque mois. Ils reviennent chaque mois, on les surveille et on leur donne les médicaments.
Ok. Est-ce qu'il y a par exemple des personnes qui, après avoir eu leur traitement, reviennent vers vous témoigner par exemple la manière avec laquelle ils arrivent à surmonter leur état de maladie?
On a eu beaucoup de cas de ces personnes-là, surtout ceux avec qui on a bien discuté. Avant de prendre le traitement, ils reviennent très satisfaits. Et ils acceptent, ils continuent normalement le traitement.
Ok. Il y a aussi la prise en charge, c'est les enfants. Nous savons qu'en Centrafrique, le traitement des enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Et c'est le cas ici au sein de votre formation sanitaire.
D'accord. Pas encore jusqu'à maintenant. On n'a pas encore bénéficié de certains médicaments pour démarrer ce programme-là. Donc, les médicaments qu'on utilise maintenant, on continue d'acheter ça et revendre aux patients. Mais on n'a pas encore la prise en charge gratuite.
Comme vous venez de le dire, le palu fait ravage chez les enfants. Comment vous vous organisez pour faire un peu de la riposte face au paludisme?
Pour le cas de paludisme, présentement, on a l'appui en médicaments. Et on fait la sensibilisation avec les femmes enceintes, les mères d'enfants qui amènent leurs enfants en consultation. Et surtout aussi, parfois on passe dans les quartiers faire la sensibilisation chez les chefs de village, surtout en période pluvieuse comme ça. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a il y a beaucoup de cas de paludisme et la flambée.
Devant cette flambée du paludisme, les enfants développent parfois des formes graves et aiguës du paludisme qui consiste à perdre parfois beaucoup de sang. Comment vous faites pour gérer cette situation?
Cette situation, on en a beaucoup ici. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes de décès. Parce qu'on n'a pas banque de sang. Tous les examens que les mamans doivent faire, les parents doivent faire avant qu'on fasse la transfusion, c'est payant. Et ça coûte un peu cher avec le niveau de vie de la population ici. C'est un peu difficile. On arrive quand même des fois avec certains parents de sauver certains enfants. Mais c'est difficile pour les parents.
Votre centre de référencement, c'est l'hôpital de Beninga. Quel est l'état de la collaboration de votre centre avec ce centre hospitalier?
L'état de collaboration, on collabore très bien avec le centre de Beninga. Des fois, il y a certaines choses qui sont un peu difficiles pour les malades parce qu'ils ne sont pas habitués à aller très loin comme ça. Et s'ils partent là-bas, ils viennent se plaindre de temps en temps parce qu'ils sont loin de la famille, trouver de quoi manger, tout ça, c'est un peu difficile. Donc, c'est ça. Mais la collaboration entre nous, ça passe très bien.
Quel est l'état aujourd'hui de votre parc automobile, ambulance, par exemple, pour faire l'évacuation?
L'ambulance, c'est en bon état. Mais le problème qui est là, lorsqu'on veut faire l'évacuation, les parents doivent contribuer pour le carburant. Ils doivent payer 20 litres de carburant pour amener le malade à Beninga.
Donc c'est à charge des parents de supporter les frais d'évacuation, c'est ça?
C'est ça. Les parents supportent le carburant et le centre prend en charge l'amortissement ou la réparation du véhicule.
Ok. Et outre cette situation, nous, Bong aujourd'hui est isolé du fait de l'insécurité, mais aussi et surtout des mines qu'utilisent les groupes armés qui sont ici dans la région. Est-ce que cela impacte aujourd'hui l'activité sanitaire que vous portez ici?
Oui, les mines, c'est vraiment un problème. Parce que je me rappelle la dernière fois, lorsqu'on voulait évacuer une personne et qu'il y avait ce problème en cours de route, on ne pouvait pas continuer. On a rebroussé chemin. Donc, c'est déjà un problème. Et même les gens qui sont un peu loin, qui veulent venir au centre, ils ont peur lorsqu'ils entendent qu'il y a des mines par-ci, par-là. Donc, ça impacte aussi sur les activités sanitaires dans la région.
Maintenant, pour les femmes enceintes qui nécessitent beaucoup d'attention, comment vous faites aujourd'hui en tant que sage-femme pour accompagner ces femmes, surtout que la densité, la démographie est si forte ici au niveau de Bukanga dans l'Impende?
Pour les femmes, la plupart des choses qu'on fait, c'est surtout la sensibilisation. On sensibilise beaucoup les femmes pour qu'elles se présentent au centre le plus rapidement possible lorsqu'elles sont enceintes et accoucher surtout au centre pour éviter des complications. Mais c'est un peu difficile. Il y a certains qui se plaignent, on n'a pas d'argent. D'autres qui sont un peu éloignés, qui ne viennent pas comme on le souhaite. Et tout ça, ça joue, ça impacte.
Donc il y a des cas d'accouchement à la maison, c'est ça?
Si, on continue d'avoir des cas d'accouchement à domicile.
Mais en cas d'accouchement difficile, comment vous faites pour apporter secours à ces familles dans les ménages qui se trouvent être dans des conditions pareilles?
On fait une prise en charge pour les cas des parents qui sont vraiment démunis. Mais c'est un peu rare. Et certains cas qui sont graves, on est obligé, même si la femme vient d'une famille qui est un peu aisée et qui n'a pas d'argent, au moment où elle arrive, on ne peut pas la laisser. On fait d'abord une prise en charge en attendant que les parents reviennent payer les médicaments après.
Pour qu'un centre hospitalier comme celui-ci fonctionne à merveille, il faut une personne ressource disponible. Avez-vous toutes les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés?
Je ne crois pas. On n'a pas toutes les ressources surtout nécessaires parce que on continue d'évacuer les personnes parce qu'on n'a pas de médecin. Il y a certains cas qui nous dépassent. Et je suis la seule sage-femme avec un infirmier diplômé d'État, une assistante accoucheuse. Le reste du personnel, ce sont des personnels non qualifiés. Donc, vous voyez, avec la densité de la population, tout ça, on n'est pas à mesure de prendre vraiment à 100% tous les cas qui nous parviennent ici au centre.
Okay. Madame, je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie.